Notre planète est fragile. On le sait tous, je ne vous apprends rien. Elle subit notamment les effets du changement climatique, principalement dû aux activités humaines. Pollution des transports, utilisation de pesticides, artificialisation des sols peuvent par exemple être pointés du doigt. Mais la biodiversité peut aussi être la victime collatérale et silencieuse des guerres et des migrations de populations. À l'horreur des massacres, des destructions et des drames humains viennent s'ajouter des conséquences écologiques dont on peine souvent à mesurer l'ampleur. Peut-on parler alors d'écocide ? Comment limiter les effets à moyen et long terme des guerres et des mouvements de population sur la biodiversité ? Comment mieux la protéger ? Et comment le changement climatique exacerbe-t-il les conflits ? On en parle dans cet épisode de La Fabrique du Savoir saison 3, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec l'Institut Balanites. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Josefa Lopez, je suis journaliste au Monde et pour cet épisode, je reçois trois invités. Trois invités réunis à l'occasion de l'université d'été de l'Observatoire Homme-Milieu International Tessé-Kéré, organisé par l'Institut Balanites à La Rochelle. À mes côtés, Jean-Noël Ferrier. Vous êtes politologue, sociologue et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes membre du laboratoire LAM, le laboratoire des Afriques dans le monde, à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et vous travaillez sur l'ajustement des politiques publiques aux équilibres politiques. Bienvenue. Agnès Michelot, bonjour. Vous êtes maître de conférence HDR en droit public, directrice de la Fédération de recherche en environnement et développement durable à l'Université de La Rochelle, mais aussi vice-présidente du Centre international du droit comparé de l'environnement. Et Diatuccio, bonjour. Vous êtes géographe, directrice du laboratoire Population, Environnement et Développement et chef du département de géographie de l'UCAD de Dakar. Vous travaillez sur les zones rurales, les politiques environnementales, la gestion des aires protégées et les usages de l'eau, notamment au Sénégal et en Afrique subsaharienne. Vous nous en parlerez. Bienvenue à tous les trois. Alors dans cet épisode, j'aimerais qu'on aborde deux aspects qui relient guerre et environnement. Il y a d'un côté les conséquences géopolitiques du changement climatique. L'accès à l'eau, aux ressources, aux terres cultivables peuvent exacerber les tensions et les conflits. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi qu'on parle de l'impact direct de ces mêmes tensions, de ces mêmes guerres sur la biodiversité et sur l'environnement. On commence d'ailleurs par ça, si vous le voulez bien. Alors les guerres touchent les humains, on le sait, mais elle cause aussi de nombreux dommages sur l'environnement, avec par exemple des pollutions durables, parfois irréversibles. Aujourd'hui, quels impacts ont les guerres sur nos écosystèmes, notamment en Afrique ? Jean-Noël Ferrier, peut-être pour commencer.
La première conséquence des guerres, c'est qu'on ne peut pas traiter l'environnement et qu'on ne peut pas développer des politiques publiques normales. Puisque une politique publique, c'est d'abord une politique en temps de paix, et l'intérêt pour l'environnement, c'est un intérêt d'abord d'une situation pacifique. Dès qu'il y a des guerres, on est dans une circonstance exceptionnelle et donc on ne peut plus traiter ces choses-là. On passe à autre chose d'une certaine manière. Et c'est ça l'impact principal des guerres, c'est que finalement, l'environnement n'est pas une priorité. Dans une guerre, ce qui est prioritaire, c'est de survivre ou de la gagner. Et puis, il y a la situation humanitaire. Les personnes victimes de bombardements, vous évoquiez l'Ukraine, il est clair qu'il y a des bombardements qui font beaucoup de victimes civiles et c'est la première chose qu'il faut pallier. Donc, le problème de la guerre par rapport à l'environnement, c'est que on ne peut pas s'en occuper. Voilà, c'est ça.
Et donc, si on a aussi des causes et des dégâts concrets, ça serait quoi ? Justement, on parlait de pollution irréversible. Chaque guerre est différente. Une guerre en Ukraine, ça va pas être les mêmes conséquences qu'une guerre en Irak, par exemple. Agnès Michelot.
Oui, il y a une diversité de conflits, hein, diversité d'intensité, diversité d'objectifs. Vous avez des guerres de destruction. L'environnement, c'est une arme de guerre. Si vous décidez de polluer l'eau, vous pouvez durablement atteindre la population. Si vous attaquez un pays qui dispose, par exemple, d'infrastructures nucléaires, comme c'est le cas pour l'Ukraine, il est évident que le danger peut être non seulement local, national, mais aussi international. Et donc, l'environnement peut participer aussi des objectifs de guerre. Et ça, c'est une problématique majeure. Si vous êtes dans un territoire qui dispose d'industries chimiques et que ces industries sont impactées, évidemment, vous allez avoir des destructions qui vont être extrêmement durables et qui atteindront la population sur plusieurs générations.
En Afrique, quel constat on peut faire justement de l'impact des guerres sur l'environnement ?
Et la guerre, en tout cas, peut être considérée comme une forme d'atteinte à l'environnement parce qu'elle s'attaque à la biodiversité dans ses différentes dimensions. que ce soit sur les biotopes, que ce soit sur la faune, que ce soit donc sur le végétal, on voit en tout cas cette dégradation donc de l'habitat et des ressources même prises individuellement. Donc sans même que les moyens de guerre soient sélectionnés ou ciblés, la guerre donc a des effets. Comme toute forme d'ailleurs de présence humaine donc peut avoir donc des effets. Si on prend l'Afrique, hein, on peut voir dans le Sahel, hein, dans les zones conservées concernées par la muraille verte, on a donc ces conflits. Ces conflits peuvent être liés à l'accès à des ressources, mais les impacts donc sont là dans la dégradation donc de l'environnement, que soit donc perte en superficie donc de formation donc végétale, ou aussi en tout cas perturbation des efforts en tout cas de restauration autre que l'on peut voir. Si je prends toujours l'exemple du Sénégal, on a par exemple en Basse-Casamance, une zone en conflit depuis 1982, qui a un parc national donc, de 5000 hectares, où nous avons vraiment des espèces emblématiques avec différents milieux, zones humides, zones forestières, guinéennes, où depuis donc, l'attaque de la base, qui surveille donc, le parc, il n'y a plus donc, de poste de commandement. Donc, il y a des stratégies de coopération avec la population locale pour faire la surveillance communautaire. Donc,
pour vous, les forêts, notamment, ce sont des zones importantes ça devient des zones de combat alors que c'était des zones de refuge
Pour la biodiversité. Et ça devient donc des zones de refuge pour les combattants. Quand on met des produits pour cibler des productions agricoles,
l'agent orange,
ou dans certains cas que l'on connaît. Là, c'est réellement des stratégies sans éthique qui s'attaquent. À l'environnement, c'est ciblé.
Vous citiez l'agent orange, effectivement, pour resituer pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. En gros, entre 1961 et 1971, plus de 70 millions de litres de l'agent orange, a été déversé sur les forêts vietnamiennes par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Le but, c'était de dénuder les arbres pour mettre l'ennemi à découvert. Mais forcément, cet agent a contaminé aussi durablement les populations, les écosystèmes. Jean-Noël Ferrier, est-ce qu'on constate cette stratégie un peu de la terre brûlée dans d'autres conflits, ou est-ce que c'est une technique ancienne en quelque sorte?
Il me semble qu'une partie de ce que font les Russes en Ukraine relève tout à fait de cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de pourrir considérablement le pays de différentes manières, en attaquant aussi bien les centrales nucléaires, mais également en...
Les barrages, par exemple?
Par exemple, et également en mettant des mines sur des territoires extrêmement larges qui ne permettent plus d'y aller. Donc, c'est une stratégie qui est présente. En Afrique, je ne suis pas sûr que ce soit ça. C'est plutôt le problème de l'instabilité et le problème de l'insécurité qui empêche, d'une certaine manière, de secourir l'environnement. Parce qu'on ne peut pas accéder à certaines zones. Et si vous regardez le tracé de la Grande Muraille Verte, il y a des
juste
des
en
zones...
deux mots, la Grande Muraille Verte, parce que je pense que tous nos auditeurs ne connaissent pas. C'était un projet de replantation d'arbres et de zones vertes, on va dire, sur plus de 8000 kilomètres d'ouest en est, en Afrique, sur une bande. C'est pour ça qu'on appelle ça une Grande Muraille, en quelque sorte.
C'est un double projet, en fait. Premièrement, d'arrêter la désertification en plantant. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce projet, c'est devenu mettre en place un environnement humain qui permet de préserver la nature et qui permet à la fois le développement des populations. Donc le projet est beaucoup plus vaste,
oui,
et donc il englobe l'idée également de sécurité humaine. Mais simplement sur cette zone-là, vous avez des conflits, vous avez du terrorisme, vous avez toute une série de ruptures qui empêchent physiquement de rendre possible la Grande Muraille Verte. Donc il faut voir que la Grande Muraille Verte, c'est des segments, des endroits où on ne peut pas aller, et puis des segments.
Et donc comment on fait pour avoir ce genre de programme et pour permettre que ça continue?
C'est extrêmement difficile parce que ça implique de ramener une situation de paix dans la région, et là, il y a d'autres critères, d'autres situations, d'autres variables que la question de l'environnement. C'est le problème d'arrêter les conflits, c'est le problème de mettre une fin au terrorisme. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que précisément, c'est multiplié par autant de pays et autant de régions qu'il y a de parties prenantes à la Grande Muraille Verte. C'est complexe.
Comment encadrer ces mouvements de population avec toute la difficulté humaine qu'il y a derrière? Pour préserver l'environnement, c'est très dur.
Même à des échelles beaucoup plus réduites, vous prenez tout simplement une migration climatique pour la recherche donc de l'eau et de forage. Et là, si vous prenez ce qui quitte justement le nord, la zone de la Muir Verte, pour faire de la transhumance, pour aller vers le sud-est du pays, où on a encore de l'eau et des massifs forestiers, parce que là-bas, on a le parc national du Nyokolo-Koba, ça crée des conflits. Pourquoi ? Parce que les outils mis en place, cadre de convention ou autre, n'implique pas réellement peut-être les populations transhumantes qui ont du mal à s'approprier ces outils-là. Donc, il y a ces impacts, des effets donc de transhumance, c'est-à-dire de migrants pasteurs, donc transhumants réellement, et par rapport à la population locale, donc et qui crée aussi des conflits. Les outils de gestion sont là, mais au moment de les élaborer, peut-être la population concernée qui doit s'approprier l'outil-là n'est peut-être pas sur place.
C'est-à-dire qu'il faut faire quoi ? Ça va être au cas par cas, essayer de convaincre les populations, de les faire parler entre elles pour justement trouver des compromis ?
Oui, trouver des compromis parce qu'eux aussi sont dans des positions légitimes, parce qu'ils sont sénégalais et ont le droit donc, de se rendre sur d'autres zones. Mais c'est comme également dans les zones minières où on a une forte population donc migrante qui est là, qui s'adonne également à l'orpaillage et qui dégrade donc l'environnement. Donc ça aussi, ce sont des migrants parce que dans l'orpaillage, par exemple au Sénégal, n'ont pas tellement cette l'ingénierie réellement de l'orpaillage n'existe pas. Donc c'est importé du Burkina, du Mali, donc et c'est à toutes les formes d'atteinte, même pollution de l'eau. Avec cyanure, donc tu dis. Et ça aussi, c'est pour l'abreuvement aussi de la faune.
Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui, donc sous tension ou qui font face à des guerres, dont vous craignez vraiment l'impact pour l'environnement, qui vous semble être dans des situations très très compliquées ?
D'abord, il y a des réflexions sur ce qu'on appelle la sécurité climatique, pour répondre à votre question, c'est-à-dire le fait que la dégradation de l'environnement détruit les conditions de vie des populations et font que ces populations doivent se déplacer parce qu'elles n'ont plus les moyens de leur survie. Et depuis les années 70, il a été tous les organismes de sécurité, hein, nationaux et internationaux, ont identifié la dégradation de l'environnement comme un facteur de conflit. Donc, il faut effectivement pas oublier ça. Ensuite, sur le fait que certaines régions du monde sont plus à risque pour le lien entre sécurité et environnement, je pense que comme on est dans un réchauffement global qui impacte absolument tous les continents, y compris le continent européen, à un rythme quand même extrêmement important. Si on considère les pôles, par exemple, et les nouvelles voies navigables avec le réchauffement de l'Arctique, donc des enjeux stratégiques extrêmement forts, on voit aussi que les conditions d'avoir des conflits sont aussi plus importantes parce qu'il y a des pressions sur les ressources. Qui dit pression sur les ressources, dit tension. Qui dit tension, donc dit potentialité de conflit. Donc, il faut bien comprendre qu'avec la dégradation de l'environnement, avec le réchauffement climatique, on est sur une augmentation des potentialités de conflits partout dans le monde. Alors après, dans des conditions différentes, évidemment dans les pôles et en Arctique, ça se présente pas dans les mêmes. Mais ce sont des tensions et des risques de sécurité internationale collective parfaitement étudiés, hélas depuis un moment, mais qui évidemment s'accélèrent. Donc, pour l'Afrique, évidemment, c'est des conditions de survie. Les populations qui n'ont plus les moyens avec l'avancée de la désertification, eh bien, elles sont obligées de se déplacer dans des lieux où elles sont pas forcément les bienvenues, qui créent des tensions, qui créent des pressions sur l'accès à l'eau, sur les ressources, sur le bois, et donc des conflits. Donc, là où c'est par contre très compliqué, c'est qu'en fait, c'est multifactoriel. Le climat est une sorte d'accélérateur des conflits, mais il y a des enjeux politiques, sociaux, culturels, qui sont évidemment à prendre en compte.
Jean-Noël Ferry.
Oui, et puis il y a une intrication entre d'un côté les tensions sur les ressources et de l'autre, d'autres formes de violence qui seraient la violence djihadiste. On ne peut pas expliquer la violence djihadiste uniquement par le djihadisme, ça n'a aucun sens. Si vous prenez le Sahel, il y a une intrication profonde entre la violence, les tensions pour les ressources, les tensions entre d'un côté des agriculteurs et de l'autre des pasteurs, et c'est extrêmement présent. Et il y a également du trafic, toutes sortes de trafics. Donc, il y a une série de facteurs qui rendent une situation totalement intenable. Et de certaine manière, on simplifie tout cela en disant « nous luttons contre le djihadisme ». Non, il y a des problèmes locaux, il y a des problèmes territoriaux. Et effectivement, ces problèmes locaux et ces problèmes territoriaux ont un substrat environnemental, indéniable.
C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en vous écoutant, quasiment tout part de là. Bah,
si on considère, je rappelais l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de juillet 2022 qui reconnaît le droit à un environnement sain pour tout le monde, pour chaque personne, on ne peut pas envisager la survie de l'espèce humaine sans la protection de l'environnement. Donc évidemment, tout est lié. Et l'environnement, c'est la base de la survie de l'espèce humaine. Donc évidemment, à partir du moment où la pression sur l'environnement est importante, à partir du moment où ça génère des conflits entre les populations, à partir du moment, et ça a été dit dès le début, on n'est pas dans une situation, entre guillemets, de paix, hein, tout devient compliqué, extrêmement compliqué. Et l'accès à un environnement sain, c'est le droit à la vie, le droit à la base de tous les autres droits.
Je parlais en introduction du mot écocide. Est-ce qu'on peut employer ce terme-là dans des environnements, des pays qui subissent la guerre et dont l'environnement est impacté?
Oui, parce que ce sont des crimes écologiques, hein, parce que dans tous les cas, comme j'ai dit, ça peut être pensé sciemment, c'est-à-dire porter atteinte de façon volontaire donc, à l'environnement pour avoir ses effets. Ça, c'est pour fragiliser les communautés ou fragiliser en tout cas les combattants, les soldats, ou comme les cas dont tout à l'heure qu'on vient d'évoquer. Ah, c'est un crime. Mais maintenant, est-ce que les organes, les Nations Unies ou la Cour pénale internationale ou autre, ont réellement des éléments ou des moyens le pouvoir de crime? Est-ce qu'il y a des environnementalistes? Est-ce que cette dimension, en temps de guerre, quand la Croix-Rouge est là pour sauver les humains et autres, est-ce que des paramilitaires sont là
pour sauver l'environnement?
Si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons des services paramilitaires. C'est pas partout en Afrique. Au Niger, je pense, au Tchad, c'est paramilitaire. Mais est-ce qu'ils sont impliqués?
Agnès Michelot.
Alors déjà, le droit international de l'environnement s'applique en temps de guerre autant que possible, puisque on n'est plus en situation normale, on n'est pas en situation de paix. Donc, est-ce que l'environnement peut être objectif de guerre? Il y a des règles du droit de la guerre qui donnent des conditions de proportionnalité. Donc, on ne peut pas porter atteinte à l'environnement, notamment parce que ça signifie porter atteinte à la population civile. Et la population civile ne doit pas être une cible dans le droit des conflits armés, donc dans le droit de la guerre. Première chose. Donc, le droit de la guerre, il y a des règles qui tiennent compte de la protection de l'environnement. Deuxième branche du droit, vous avez le droit humanitaire, hein, donc qui fait que, effectivement, le droit international humanitaire protège l'environnement à travers des dispositions générales et aussi sur des dispositions spécifiques. Interdiction d'utiliser certaines armes, par exemple, qui vont avoir des effets notables sur l'environnement et de manière durable.
Lesquelles, par exemple?
Donc, par exemple, toutes les armes biologiques, bactériologiques. Il y a des réglementations. Il y a une convention internationale de 1976 qui interdit de modifier l'environnement. Voyez, l'armement qui va modifier l'environnement, avec une définition de ce qu'on entend par toutes ces techniques de modification de l'environnement. Donc, oui, le droit international des conflits armés tient compte de ça. Le droit international de l'environnement s'applique autant que possible, on va dire. Et après, sur la dernière question, il y a aussi la formation des militaires qui a beaucoup avancé sur la façon de se comporter sur le terrain, le type d'armement qu'on utilise, comment on utilise, vis-à-vis de qui. Donc ça, c'est plus préventif. Après, il y a le temps de guerre et après, il y a le post-conflit. Et il y a ce qu'on appelle le traitement des restes de guerre.
Comment on gère l'après?
Eh bien, ça, il faut une coopération internationale des parties qui étaient impliquées pour effectivement rendre de nouveau ces zones habitables, ce qui est extrêmement compliqué. Si c'est des polluants à haute dose et sur des temps très longs, il y a des risques pour l'Ukraine, et là, c'est extrêmement volontaire. Et donc, pour revenir à cette question d'écocide, c'est une action volontaire, massive. Et ça peut rentrer, c'est à l'étude pour la Cour pénale internationale, comme crime de guerre.
Et qui paye? Qui organise ça, du coup?
Alors, ce qui est post-conflit, on a notamment la jurisprudence de la Cour internationale qui a notamment mis en place ce qu'on appelle une réhabilitation post-conflit quand il y a eu la destruction des puits de pétrole au Koweït. Hein, donc là, à ce moment-là, le système des Nations Unies a dit, ben voilà, il a fallu donner un plan de réparation.
En 1990.
Donc effectivement, il faut qu'une fois que la période de conflit est passée, une coopération internationale entre les pays concernés pour reconstruire. Mais il faut que ça soit possible.
Et si on reprend l'exemple là du Koweït, l'Irak, donc a été condamné en 91 par une commission spéciale à indemniser le Koweït après la mise à feu donc de plus de 600 puits de pétrole donc par les forces de Saddam Hussein. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, au-delà de la condamnation ?
Il y a eu des sanctions financières pour trouver les moyens. Donc, ça a été très dur, d'ailleurs, pour le peuple irakien. Il faut quand même le rappeler, parce que derrière les moyens financiers, il y a l'Irak, mais il y a aussi toute la population. Donc, il a fallu à un moment prendre aussi les conditions humanitaires des Irakiens, parce qu'ils ont aussi été extrêmement impactés. On a trouvé des moyens financiers. Alors, quand on condamne un pays, comme ça a été le cas aussi clairement pour l'Irak, évidemment, ça a pesé beaucoup sur les ressources de ce pays. Après, il y a la coopération internationale qui prend quand même le relais autant que possible. Maintenant, pour un pays comme l'Ukraine, avec les dégâts qui sont en cours.
Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a conscience davantage de l'environnement, de la protection de l'environnement, est-ce que dans un conflit comme par exemple aujourd'hui en Ukraine, on a ça en tête, on commence à chiffrer comme on peut chiffrer les crimes de guerre, par exemple en temps réel, on le voit sur l'Ukraine où il y a des enquêtes en temps réel quasiment qui sont faites, est-ce que là en temps réel, il peut y avoir des experts qui sont sur le terrain en train de vérifier, bon le barrage qui a rompu, voilà tant de terres qui ont été inondées, voilà l'impact concret, j'en aurais parlé.
Il est clair que l'Union européenne a les moyens de le faire, a intérêt de le faire, parce qu'il y a toujours une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, au moins d'aide puissant de l'Union européenne à l'Ukraine. La question dans ce cas-là, c'est quand le conflit va-t-il s'arrêter et quel sera le statut du principal responsable du conflit, enfin de l'unique responsable du conflit, c'est-à-dire de la Russie. Parce que dans la situation irakienne, il y a eu un perdant. C'est-à-dire Saddam Hussein a clairement perdu. Donc il était facile de lui imposer des conditions drastiques. Mais dans quelles conditions la Russie perdrait ? On n'est pas dans la même situation. Au lendemain de la guerre de 14-18, la France notamment et les Alliés ont imposé à l'Allemagne un régime de sanctions et de réparations extrêmement important parce qu'il y avait clairement un vaincu qui était déterminé.
Agnès Michelot, sur le droit environnemental international, est-ce qu'il faut faire en sorte que les lois soient plus dures, qu'il y ait des accords encore plus stricts, encore plus forts ?
Le problème, comme vous avez bien compris, c'est que les accords, on peut les violer, première chose. Ouais. Et deuxième chose, on n'est pas obligé non plus de les signer. Donc, un certain nombre des accords que j'évoquais sur l'interdiction de certaines armes ne sont pas ni signés ni ratifiés. Donc, les États ne sont jamais obligés de s'engager. Pas comme si vous aviez un super gendarme international qui obligeait les États à collaborer et à faire des choses dans l'intérêt de l'humanité, malheureusement.
Donc, c'est l'accord de l'ONU où la Russie ne l'a pas signé, par exemple.
Et donc là, je voudrais quand même, sur une note plus positive, souligner la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 7 décembre 2022, qui s'intitule « Protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés » et qui donne un cadrage, si on peut dire, qu'on espère à vocation universelle. Et qui prévoit une des solutions, enfin une des mesures intéressantes pour répondre à votre question, c'est des déclarations de zones protégées environnementales pendant les conflits qui viseraient à les exclure, on va dire, des cibles militaires, des objectifs militaires. Donc, effectivement, la communauté internationale est bien consciente qu'il faut avancer sur ces questions des liens entre protection de l'environnement et conflits armés.
Vous faites une très bonne transition avec la dernière question que je voulais vous poser. Justement, est-ce que le droit environnemental internationale pourrait un jour modifier le cours des guerres en excluant des zones, en ciblant, c'est-à-dire qu'on remet en place un champ de bataille, en fait, finalement, en disant clairement, voilà, la guerre aura lieu à tel endroit.
Je pense qu'il y a quelque chose de très important à comprendre avec le droit international, c'est qu'historiquement, c'est un droit interétatique. Donc, c'est un droit construit par la volonté des États. Et c'était cette branche du droit qui est quand même récente, hein, elle doit maintenant porter des sujets absolument monstrueux comme le changement climatique, l'avenir de l'humanité. Et le droit international n'a pas été conçu pour ça, il n'est pas outillé pour ça. Donc il faut absolument le faire évoluer extrêmement rapidement. C'est déjà le droit international qui doit évoluer en tant que tel, peut-être vers un intérêt plus collectif et non pas uniquement intérêt étatique, qui est l'intérêt de l'humanité. Le droit international de l'environnement, il a toutes les branches, la protection de la biodiversité, les accords climat, la protection des zones humides, la convention CITES sur les espèces menacées d'extinction, le commerce international. Donc, il a toute une série d'instruments.
Il y a déjà des outils.
Exactement, il a toute une série. Ce qui, je pense, je vais être un petit peu optimiste, bon, comme ça fait
c'est 25, bien pour conclure ce podcast,
25,
quasiment.
25 ans que je fais du droit international de l'environnement. Je vais vous dire quelque chose. Le droit international de l'environnement, il a de l'intérieur quelque part révolutionné le droit international général en remettant en question la question de la souveraineté, en disant la souveraineté, c'est pas la solution de tout. Hein. Il ne faut pas impacter le territoire du voisin. Donc, c'est une règle très importante en droit international. Et on voit que la protection de l'environnement a finalement fait avancer ce principe essentiel du droit international, qui est le principe de souveraineté. Et donc, c'est une reconnexion finalement avec la nature vers laquelle on va par le droit international de l'environnement et, j'espère, une sorte de révolution interne du droit international général grâce aux problématiques environnementales, notamment pour le droit de la sécurité.
Jean-Noël Ferrier, est-ce que vous êtes aussi optimiste ?
Pas autant. Enfin, si, sur le fait que le droit de l'environnement a un impact positif sur le droit international, oui. Mais en revanche, sur la capacité du droit de l'environnement de délimiter, par exemple, des zones de guerre en fonction de principes environnementaux, je n'y crois pas. Si ce droit pouvait faire ça, on aurait probablement un système de droit qui aurait la capacité lui-même d'arrêter les guerres pour en arriver là. Et il y a un autre point important, il faut voir qu'en Afrique, nous avons affaire à des guerres asymétriques entre des armées nationales et de l'autre côté des guérillas. Et que ça, c'est encore plus difficile.
Tout le monde n'adhère pas au même droit.
Certains adhèrent à des principes de droit, d'autres, on ne sait pas à quels principes de droit ils adhèrent. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, ce sont principalement, vous regardez les conflits actuellement, ce sont principalement des guerres asymétriques. Et donc ça, c'est un problème parce qu'on n'a pas affaire à des militaires, donc on n'est pas dans le cadre du conflit. Du droit des conflits armés. Ça pose un autre problème.
On ne trouvera pas la solution à la protection de l'environnement en temps de guerre, malheureusement. Merci en tout cas à tous les trois pour ces éclairages. Retrouvez les autres épisodes de cette saison 3 de La Fabrique du Savoir, ainsi que les précédentes saisons, il y en a deux donc, sur lemonde.fr et les plateformes de podcast. À très bientôt.